Dans la suite de l'article de Gershom Scholem que nous sommes en train de lire, La mystique juive et la Kabbale, publié en 1944, c'est le mouvement de balancier entre d'une part une vision de la Kabbale comme phénomène aristocratique et d'autre part comme type de religion populaire qui est à nouveau de mise. Je lis le paragraphe qui suit. C'est le caractère particulier de la mystique juive médiévale qui permet de m'en rendre compte de ce phénomène. Les mystiques se trouvent ici en concurrence avec les courants intellectualistes qui se sont tout spécialement manifestés dans la philosophie juive rationaliste du XIIe et du XIIIe siècle. Qu'il s'agisse des intellectuels pratiquant la philosophie ou des kabbalistes initiés à l'ésotérisme mystique, on a affaire à des mouvements de type aristocratique. Autrement dit, la kabbale, ce serait un mouvement qui ferait concurrence au mouvement philosophique, rationaliste. Cependant, à l'intérieur même d'un courant de type aristocratique, de ce qu'il appelle des mouvements de type aristocratique, se situerait dans le même champ où s'exercerait la concurrence entre ces deux formes de pensée. Scholem ajoute, ils se constituent avec l'intention affirmée de ne divulguer leur savoir qu'à un petit nombre d'élus au mérite suffisant. Mais, du point de vue de ses sources d'inspiration, la Kabbale plonge de profondes racines au sein de la religion populaire. La Kabbale est donc un mouvement qui se déploie à partir de la religion populaire, qui y plonge ses racines, qui y trouve ses sources d'inspiration, comme il dit, mais en même temps, l'intention affirmée des kabbalistes est de divulguer leur savoir qu'à un petit nombre d'élus, au mérite suffisant. Nous avons vu que ce n'était pas le cas, en tout cas, ce n'était pas le cas avec les kabbalistes d'Espagne, de Castille, de ceux qui appartiennent à l'école théosophique, comme Rabbi Moïse de Léon, Rabbi Joseph Jikatilia, et quelques autres. Mais Scholem ne fait pas dans le détail, il avance son système d'explication de façon massive, comme un espèce de rouleau compresseur qui va donner la vérité de survol de l'ensemble des mouvements historiques qui se sont produits. Pour Scholem, il était important de continuer à affirmer que la Kabbale plonge ses racines dans la religion populaire, afin d'y trouver le mythe, afin d'y trouver l'emblème national qu'il cherchait, cette activation, cette effervescence de la collectivité, pour la collectivité, en vue de la reconstitution d'un peuple uni et en vue d'une rédemption qui revient à une sorte de reconquête de l'indépendance nationale, et en particulier sur sa propre terre, sur la terre ancestrale. Pour Scholem, il était important à la fois de situer la Kabbale comme un mouvement de type philosophique, parce que Scholem était lui-même très proche d'une philosophie de type rationnel, d'un monothéisme éthique qu'il revendiquait, et d'autre part, il trouvait dans la Kabbale ce qui manquait à cette philosophie, c'est-à-dire un enracinement populaire. Scholem ajoute, tant qu'elle représenta une force religieuse douée de vitalité, nous la trouvons unie par un lien organique au mythe national et à la religion des simples. Mythe national, religion des simples, ces deux expressions sont comme des synonymes. Il n'y a de mythe national que si celui-ci revient à une religion des simples, que s'il est ramené à cette dimension. Évidemment, dans le contexte où Scholem écrit, celui de l'exacerbation des nationalismes européens, en particulier du nationalisme allemand, cette expression de mythe national prend un caractère très particulier. La recherche du caractère unique de la nation, de son mythe national, de son récit fondateur, est, je crois, inséparable d'une prétention ou retrouvailles avec les vieilles traditions populaires, avec un fond qui est transcendant par rapport à l'intellect des penseurs, qui est toujours une affaire individuelle. Il s'agit ici d'une forme de transcendance très particulière. C'est la transcendance du peuple par rapport à l'individu. L'individu cherchant dans un mythe national une sorte de conceptualisation narrative, évidemment, mais de conceptualisation tout de même, de l'aspiration populaire à la nationalité. Scholem continue. C'est ici qu'apparaît un paradoxe supplémentaire. Les kabbalistes représentent les forces religieuses et les croyances en vigueur chez les masses populaires, quoique leur moyen d'expression soit la langue de l'idéologie religieuse, voire souvent la pensée et le discours de la philosophie. Les kabbalistes s'expriment, autrement dit, comme les philosophes, mais ils représentent les forces religieuses et les croyances en vigueur chez les masses populaires. Un philosophe qui est un représentant du peuple. On connaît cette figure, c'est la figure de l'intellectuel communiste tel que Lénine l'incarne au moment où Scholem écrit ces lignes. En tout cas, dans la foulée de la montée des nationalismes et en même temps du communisme. Mais, ajoute Scholem, contrairement à l'intellectualisme rationaliste des philosophes, l'essentiel du cours des réflexions de la Kabbale est déterminé par la forme de pensée plastique du mythe. Bien que la Kabbale s'exprime sous forme rationnelle, emprunte la pensée et la terminologie au discours philosophique, l'essentiel du cours des réflexions de la Kabbale est déterminé, comme il dit, par la forme de pensée plastique, souple, donc, ouvert du mythe. Voilà donc ce que Scholem entend par mythe. C'est une forme de pensée, et je souligne ce terme, plastique. Contrairement à la pensée de type intellectualiste, qui est le contraire de quelque chose de plastique, donc cristallisé, fixé, pétrifié. C'est en cela, dit Scholem, que la Kabbale reste plus liée aux masses qu'on ne pourrait le croire, à en juger par les apparences extérieures d'un mouvement qui agite fréquemment des idées assez bizarres ou confuses. Pour Scholem, c'est un impératif catégorique de montrer que la Kabbale est liée aux masses populaires, au peuple juif dans son ensemble, qu'elle n'est pas l'apanage d'un petit nombre d'élus, d'aristocrates de la pensée, mais qu'elle représente bien les croyances et la religion populaire qui a été trahie par la pensée de type philosophique. Dans la Kabbale, ajoute Scholem, le mythe et la mystique se rattachent l'un à l'autre et s'influencent réciproquement. Ce mythe, combattu, réprimé, ou tout au moins marginalisé par les formes et les expressions classiques du judaïsme, ressurgit, souvent avec force, des diverses modalités de la pensée mystique. Le mythe pour Scholem existait toujours dans le judaïsme, depuis l'époque la plus ancienne, depuis la Bible, mais il a été combattu, il a été réprimé, et dans la Bible, par les prophètes, et plus tard, par la tradition rabbinique, ou en tout cas, dit-il, marginalisé, par ce qu'il appelle les expressions et les formes classiques du judaïsme. Mais le mythe ressurgit, et avec force, de la pensée mystique, selon ses diverses modalités. C'est dans le mysticisme juif que Scholem va puiser la force de la religion. La religion comme puissance à ébranler les masses et à ébranler les individus. Les forces émotionnelles de la religion juive se trouve pour Scholem dans le discours des kabbalistes et en particulier dans le mythe et la mystique qu'ils ont développé. Scholem poursuit son exposé. Il apparaît comme une puissance jouissant de nos jours encore d'un statut stable et ferme, d'où l'intérêt particulier que suscite nombre de kabbalistes soucieux de concilier un mode de pensée mythique et même parfois primitif avec la discipline du monothéisme juif. Conciliation tout à fait extraordinaire entre un monothéisme juif qui implique une discipline et un mode de pensée mythique et, ajoute Scholem, même parfois primitif, en étant plein dans la représentation de la religion primitive. Cette conciliation entre ces deux formes de pensée qui sont apparemment antithétique. Mais c'est ça l'intérêt particulier, dit Scholem, que suscite encore de nos jours la Kabbale. Et peut-être que Scholem pensait à lui-même et pensait à d'autres romantiques allemands ou d'autres formes de pensée allemande de son temps, comme celle que l'on trouve chez Walter Benjamin, par exemple. À certaines époques de la mystique juive, et notamment après l'expulsion des Juifs d'Espagne, ces tentatives ont eu des conséquences fondamentales, puisque la Kabbale en arriva à s'affirmer comme une force provoquant à sa façon une révolution dans la conscience juive. Le mot est lâché. La Kabbale a provoqué une révolution. Elle est une force sociale capable de provoquer un bouleversement dans ce qu'il appelle la conscience juive. Alors évidemment, le recours à cette notion de conscience juive paraît complètement dépassé de nos jours. La notion d'une conscience, la conscience juive, la conscience chrétienne, etc., telle qu'on y avait recours encore au début de la première moitié du XXe siècle, est une forme de pensée et d'expression dépassée. Cependant, on trouve souvent cette expression, là, je le dis en passant, dans les colloques des intellectuels juifs de langue française jusqu'aux années 80, où la conscience juive est invoquée comme on invoquait à une époque antérieure l'âme juive ou l'esprit juif. C'est toujours l'idée d'un particularisme national qui s'exprime au sein même des individus sous la forme d'une conscience spécifique ou d'une âme, d'un esprit particulier. Chez les kabbalistes, dit Scholem, eux-mêmes, l'ancien et le nouveau firent bon ménage. Là, je crois que Scholem touche un point très très important. En disant que l'ancien et le nouveau firent bon ménage, peut-être qu'il aurait dû dire plus que l'ancien et le nouveau se sont liés l'un à l'autre pour se donner de la force l'un à l'autre. Je veux dire par là que le nouveau s'est appuyé sur l'ancien et a même pris les formes de l'ancien pour pouvoir traverser les couches du judaïsme qui pouvaient être relativement réticents, voire hostiles à la Kabbale. Scholem ajoute. Bien souvent, ils se perçurent comme les représentants traditionnels et conservateurs de l'ancienne autorité religieuse. Alors qu'en réalité, ajoute Scholem, leur action tendait précisément à exercer son influence en sens inverse. Quand on lit les écrits de Moshe Hidel aujourd'hui, on a l'impression effectivement que les kabbalistes sont essentiellement des conservateurs, des orthodoxes, essentiellement soucieux de maintenir la religion telle qu'elle, de ne pas la modifier, d'être les fidèles représentants et peut-être ses meilleurs représentants. Tandis que pour Scholem, ce n'est là qu'une facette des choses, puisque bien que les kabbalistes se sont souvent perçus eux-mêmes comme des représentants traditionnels et conservateurs de l'autorité religieuse traditionnelle, en réalité, ajoute-t-il, leur action, en fait, visait une fin totalement différente, à exercer son influence dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens d'une révolution, comme il le dit plus haut. Mais chaque fois que les kabbalistes comprirent que leurs idées étaient révolutionnaires, du point de vue du judaïsme rabbinique, ils se rapprochèrent de l'hérésie mystique. Hérésie mystique est entre guillemets, et furent sur le point d'entrer en conflit avec le judaïsme officiel, toujours entre guillemets, de leur propre époque. Un conflit tantôt larvé, tantôt tout à fait ouvert. Là, je crois que Scholem, en quelques phrases, trouve les mots pour dire le mouvement de balancier et le paradoxe qui est celui de la Kabbale depuis ses débuts, à la fois conservatisme et forme de pensée de type révolutionnaire. Et pour Scholem, c'est quand les kabbalistes prennent conscience du fait que leurs idées étaient vraiment révolutionnaires, si on les met en face de celles du judaïsme rabbinique, qu'à ce moment-là, ils se sont rapprochés de ce qu'il appelle une hérésie mystique, et qu'ils se sont mis en passe, qu'ils étaient sur le point d'entrer en conflit avec le judaïsme officiel. Scholem continue. Bien que la mystique donna un grand essor à des idées comme l'accès continu à la divinité, l'illumination et la contemplation religieuse immédiate, elle ne voulut pourtant pas couper les ponts avec les formes classiques du judaïsme, ni même avec la religion populaire. C'est ce qui permet de comprendre deux autres phénomènes caractéristiques de ce mouvement. Religion populaire et formes classiques du judaïsme sont deux formes qui s'opposent pour Scholem, qui sont distinctes, et que pourtant la Kabbale prend comme sien, fait sien. En premier lieu, malgré le mysticisme et l'intuitivisme mis en œuvre dans la méthode kabbalistique, la Kabbale ne prétendit pas être autre chose que la Kabbalah, c'est-à-dire la tradition authentique, transmise en secret de génération en génération depuis les débuts de l'humanité. Conception qui s'exprime sous des formes mythologiques diverses. Tantôt, la Kabbale constitue à ses propres yeux la sagesse et la connaissance primordiale que l'ange Raziel communiqua à Adam. Tantôt, elle se présente comme la quintessence et le sens profond de la loi orale donnée à Moïse sur le Sinaï. Tantôt elle se fonde sur une longue chaîne de traditions séculaires pour démontrer l'authenticité de la sagesse qu'elle vise à répandre. Mais étrangement, jamais chez les Juifs, y compris chez ceux d'entre eux qui cultivèrent la philosophie, n'apparurent autant d'idées que dans le camp de ces kabbalistes qui s'évertuaient à répéter qu'ils ne faisaient que transmettre la sagesse reçue comme un legs kabbala des générations antérieures. Il faudrait en outre mentionner l'impact de certaines doctrines messianiques. On trouve fréquemment chez les mystiques l'idée selon laquelle la sagesse authentique et parfaite se répandra uniquement au temps messianique. Et même si ceci est encore à venir, il est déjà loisible, au seuil de la rédemption, de consigner cette sagesse par écrit ou de la transmettre à des disciples initiés au mystère divin. Nombre d'éminents kabbalistes étaient convaincus que la rédemption était imminente et qu'ils en seraient les témoins. Cela leur servit à rendre compte de la part d'innovation que leurs idées pouvaient contenir par rapport aux legs traditionnels des générations antérieures. Dans la plupart des cas, l'inédit revêtait l'apparence d'un commentaire portant sur un texte plus ancien, quoique les idées nouvelles ne soient pas toujours nées d'une telle opération exégétique. Et Scholem ajoute, pour conclure, « Plus l'affirmation neuve était audacieuse, plus ses tenants mettaient d'insistance à affirmer qu'il s'agissait seulement de la révélation du contenu authentique et originel d'une tradition religieuse transmise depuis toujours. » Ce passage est tout à fait remarquable et je crois que, bien qu'il puisse être commenté et détaillé, il garde une grande part de vérité que les recherches présentes n'ont, à mon avis, pas du tout ébranlé ni mise en cause. Sur cette approche de la Kabbale, à la fois comme révolutionnaire et conservatrice, et cette tentative de dépasser, en tout cas, au moins de respecter le caractère paradoxal de cette double fonction, Scholem, je crois, a raison contre d'autres penseurs plus contemporains, d'autres chercheurs dans le domaine de la Kabbale, y compris contre Moshe Heidel, qui a une vision peut-être un peu trop unilatérale de l'histoire de la Kabbale comme conservatisme, et qui minimise, il le dit explicitement dans son dernier ouvrage, en tout cas dans celui qui est apparu en français, avec Victor Malka, son entretien, où il dit que la Kabbale n'est en rien révolutionnaire. Je crois que Scholem a raison de dire que la Kabbale est à la fois une révolution et un conservatisme. Alors, je ne crois pas du tout que cette vision des choses justifie l'appellation qu'il serait facile de forger, de conservatisme révolutionnaire ou de révolution conservatrice. Je ne crois absolument pas qu'il s'agit de ça. Au contraire, il me semble que le phénomène historique de la religion juive qui s'appelle la Kabbale nous donne l'occasion de chercher à dépasser l'opposition quelque peu stérile entre le nouveau et l'ancien, entre le révolutionnaire et le conservatisme, entre les forces d'orthodoxie, de préservation de l'héritage, de conservation et de maintenance de la tradition, et les forces de renouvellement et de transformation. Il faudrait réfléchir, et c'est peut-être ce qui va nous occuper prochainement, sur la notion de tradition et ce qu'elle implique. Je crois, je lance l'idée, je la reprendrai plus tard, que la notion de tradition elle-même, C'est-à-dire qu'il est dans la nature même de la tradition, qu'il n'y a de tradition qu'à la condition qu'il y ait en elle, par elle, à travers elle, un mouvement ou une disposition à la transformation. La tradition est peut-être le plus grand vecteur de transformation de l'histoire des religions. Bien que cela puisse paraître surprenant, voire contradictoire, il me semble que la notion de tradition devrait être creusée dans ce sens et ne pas apparaître comme la simple propension à transmettre sans aucun changement, telle quelle, une vérité qui serait toute faite, formée d'avance, intentionnellement reprise et retransmise aux générations postérieures. Je ne crois pas du tout qu'une tradition ce soit ça. Cela va nous occuper bientôt.